Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'émissaire spécial américain dans la région des Grands Lacs a déclaré que les États-Unis continueront d'utiliser l'arme des sanctions contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo.
RDC toujours, l'OMS a préqualifié hier un premier vaccin contre Ebola qui était jusqu'à présent utilisé selon un usage dit compassionnel.
Au Tchad, le gouvernement fait la paix avec une milice d'autodéfense du Tibesti après plusieurs semaines d'affrontements liés à l'exploitation de l'or dans cette région.
Début des audiences publiques aujourd'hui à Washington dans le cadre de l'enquête des parlementaires démocrates sur une éventuelle procédure de destitution contre le président républicain Donald Trump.
Escalade de la violence entre Israël et Gaza après un raid israélien dans lequel un chef du djihad islamique palestinien a été tué.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les États-Unis continueront d'utiliser l'arme des sanctions contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo, a déclaré hier l'émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est une nouvelle marque, souligne-t-on, du soutien de Washington au président Félix Tshisekedi. Le point avec Eddy Isango.
Après une visite à Kinshasa, Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis, a écrit hier dans un communiqué « Nous continuerons à utiliser tous les instruments, y compris les sanctions, pour assurer que ceux qui sont corrompus, ceux qui violent les droits humains, ceux qui mettent en danger la paix et la sécurité dans la région ou ceux qui menacent les processus démocratiques soient tenus pour responsables de leurs actes. » Il encourage le président Félix Tshisekedi à redoubler d'efforts pour réformer et renforcer les institutions démocratiques et pour lutter contre la corruption. En septembre, M. Tshisekedi avait affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption sans faire des chasses aux sorcières. Le président congolais a été reçu le 4 avril par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Washington est aussi le premier contributeur financier à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué depuis août 2018 plus de 2000 personnes dans l'est de la RDC.
Concernant justement l'épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a préqualifié hier le vaccin contre Ebola qui était jusqu'à présent utilisé en RDC selon un usage dit compassionnel. La préqualification signifie que le vaccin répond aux normes de l'OMS en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité. Il s'agit là d'une étape cruciale qui permettra d'accélérer l'homologation du vaccin, son accès et son déploiement dans les pays les plus exposés aux épidémies d'Ebola.
Au Tchad, le gouvernement et une milice d'autodéfense du Nord ont signé un accord de paix censé mettre fin aux combats qui les opposent depuis plusieurs semaines sur fond de querelles sur l'exploitation de l'or que recèle cette région du Tibesti. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi à l'AFP les deux parties. Au terme de cet accord, le comité d'autodéfense de Miski, créé en novembre 2018 par des habitants de cette localité pour affronter aussi bien les gangs locaux, les orpailleurs illégaux et les trafiquants que l'armée gouvernementale, ont accepté de déposer leurs armes, selon l'armée, qui a consenti, elle, à se retirer de certaines positions, selon des médias tchadiens.
Parlant d'or, l'ONG International Crisis Group avertit dans un rapport aujourd'hui que les djihadistes et autres groupes armés ont trouvé dans les mines d'or du Sahel une nouvelle source de revenus, profitant de la défaillance des États concernés. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des groupes armés s'emparent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Leur convoitise est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un filon saharien, écrit cette organisation dédiée à la prévention et à la résolution des conflits.
Et à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises dans les prochaines semaines pour améliorer la lutte anti-djihadiste au Sahel. Il l'a dit en recevant ce mardi à l'Élysée ses homologues du Tchad, Idriss Déby Itno, du Niger, Mahamadou Issoufou et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons avancé sur la situation sécuritaire et sur les décisions qui seront annoncées dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe G5 Sahel sur le fuseau central, terme militaire désignant la zone zone aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a déclaré M. Macron. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
En Algérie, la rue ne lâche pas. Quelques milliers d'étudiants ont défilé hier à Alger pour la 38e semaine consécutive contre le pouvoir, réclamant notamment une justice indépendante et la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la contestation. Abdourahman Dia.
Les étudiants, accompagnés de citoyens, ont défilé sous la pluie et sans incident jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement traditionnel du Hirak, le mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis le 22 février. La police était fortement déployée à Alger. Passant dans le centre d'Alger, près du tribunal de Sidi Mohamed, qui a condamné 28 manifestants à 6 mois de prison ferme, les étudiants ont réclamé une justice indépendante et fustigé une justice du téléphone, accusant les juges de prononcer des peine sur instruction téléphonique du pouvoir. Ces 28 personnes ont été condamnées pour atteinte à l'intégrité du territoire national pour avoir porté des drapeaux berbères. En juin, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, avait interdit tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations. 5 candidats, tous d'anciens soutiens de M. Bouteflika, dont 2 anciens premiers ministres, ont été officiellement retenus pour participer à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre.
En Tunisie, le parti d'obédience islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives du 6 octobre, doit former un gouvernement d'ici 2 mois, mais il n'a que 3 jours pour faire un choix. Prendre la tête de l'exécutif ou la laisser à une personnalité indépendante. Le point avec Idriss Fall.
Un chef du gouvernement doit être chargé d'ici vendredi de constituer une équipe dans un délai 2 mois renouvelable une seule fois. Après un week-end de discussion, Ennahda n'a avancé aucun nom. Le parti s'est contenté de proposer son chef historique, Rached Ghannouchi, comme futur président du Parlement s'il est élu ce mercredi. Le parti arrivé en seconde position aux législatives Kalb Tounes a appelé hier à mettre un indépendant à la tête du gouvernement. Le Parlement est morcelé entre des dizaines de formations dont nombre ont exclu de travailler les unes avec les autres. Certains partis sont à l'affût, espérant qu'un échec d'Ennahda va laisser au président Kais Saied le soin de désigner un premier ministre. Ce dernier aurait à nouveau 2 mois pour former une équipe soutenu par la majorité des députés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, première audition publique aujourd'hui à Washington dans le cadre de l'enquête ouverte par les démocrates pour une éventuelle destitution contre le président américain Donald Trump. 2 diplomates américains ayant fait part de leur inquiétude sur la position adoptée par le président Trump dans ses échanges avec l'Ukraine vont être entendus par le Congrès ce mercredi. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Ukraine, William Taylor, doit de nouveau témoigner aujourd'hui, cette fois lors d'une audition télévisée devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, l'une des 3 commissions menant l'enquête. Un autre diplomate ayant travaillé en Ukraine, George Kent, doit lui aussi être entendu. Les auditions publiques se poursuivront en fin de semaine et la semaine prochaine, on fait savoir les parlementaires. Marie Yovanovitch, qui a été subitement limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, doit, elle, être entendue vendredi. Elle a déjà été interrogée à huis clos par les parlementaires dans le cadre de la procédure. William Taylor a déclaré le mois dernier devant les parlementaires que Donald Trump a conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur la compagnie énergétique ukrainienne Burisma dans le but de nuire à Joe Biden, un possible rival démocrate à la présidentielle de novembre 2020. Cette compagnie avait recruté Hunter Biden, le fils de l'ancien vice-président américain. Ce témoignage alimente la thèse des démocrates selon laquelle Donald Trump avait demandé une contrepartie à Kiev pour les 391 millions de dollars d'aide destinée à faire face aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Une aide provisoirement suspendue par le président républicain après qu'elle a été approuvée par le Congrès.
L'armée israélienne a tué hier un commandant du groupe armé djihad islamique et 6 autres Palestiniens dans une série de frappes sur Gaza, provoquant une riposte de 200 roquettes. Le point avec John Linden.
Hier à l'aube, l'armée israélienne et les services de sécurité intérieure du Shin Bet ont mené une frappe sur l'appartement de Baha Abu al-Atta dans la bande de Gaza. Il a été tué sur le coup avec sa femme Asma. Âgé de 41 ans et père de 5 enfants, Baha Abu al-Atta avait rejoint le groupe djihad islamique dans les années 1990 et était son commandant pour le nord de Gaza. En riposte, des salves de roquettes ont été tirées sans interruption depuis Gaza sur Israël. La majorité des plus de 190 roquettes ont été interceptées par le bouclier antimissile Iron Dome, mais d'autres sont tombées sur le territoire israélien. Les sirènes ont retenti dans de nombreuses villes jusqu'à Tel Aviv, où les écoles et universités ont été fermées. L'armée israélienne a répondu avec des frappes tuant 5 Palestiniens, ce qui porte à 7 le nombre de morts et une quarantaine de blessés dans la bande de Gaza.
Minute Éco, Nanit Talani.
Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, a vendu près de 200 000 tonnes de cacao pour la saison 2020-2021 avec des prix comprenant la nouvelle prime destinée à soutenir les agriculteurs. Le pays compte vendre à terme environ 650 000 tonnes la saison prochaine. Le Ghana a obtenu un prêt de 600 millions de dollars de la Banque africaine de développement et du Crédit Suisse pour donner un coup de fouet à son secteur du cacao. Le Zimbabwe a mis en circulation 31 millions de dollars zimbabwéens sous forme de nouveaux billets pour tenter de résorber la pénurie de liquidités. Cependant, la Banque centrale maintient les limites de retrait par client à 300 dollars zimbabwéens par semaine, alors que le plein d'essence coûte 600 dollars zimbabwéens. La Banque centrale prévoit de mettre en circulation 1 milliard de dollars zimbabwéens au cours des 6 prochains mois pour contrer le marché noir. Pour terminer, l'Afrique regorge de plus de 40% des gisements des ressources énergétiques mises à jour ces 10 dernières années. Mais le continent le plus riche en ressources solaires n'a que 5 gigawatts de panneaux photovoltaïques, soit moins de 1% de la capacité mondiale. Selon les experts, cette capacité pourrait être multipliée par 70 d'ici 2040, à condition de quadrupler les investissements à quelques 120 milliards de dollars.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début aujourd'hui des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.
Oui, entre autres matchs, dans le groupe A, la Namibie reçoit le Tchad. Dans le groupe B, le Burkina Faso fera face à l'Ouganda au stade du 4 août. Et le Malawi, le Soudan du Sud. Dans le groupe F, le Cameroun accueille le Cap-Vert. À suivre aussi, République centrafricaine Rwanda, Cap-Vert-Cameroun ou encore Nigeria-Bénin.
L'Afrique du Sud surprend la Côte d'Ivoire à la CAN des moins de 23 ans.
Opposé à la Côte d'Ivoire hier, les Sud-Africains se sont imposés 1-0. C'est la première victoire pour l'Afrique du Sud dans cette compétition, elle qui avait été accrochée 0-0 en ouverture par la Zambie. La nation arc-en-ciel prend du même coup la tête du groupe B avec 4 points devant le Nigeria qui a battu la Zambie 3-1. Lundi, l'Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à sa victoire 3-2 devant le Ghana.
Jamal Selami remplace Patrice Carteron à la tête du Raja Casablanca.
Le club marocain s'est séparé de l'entraîneur français à l'amiable. Patrice Carteron avait été nommé en janvier dernier avec un contrat renouvelable d'un an. La première défaite en championnat samedi sur le terrain du club Youssoufia 3-2 a précipité son départ. Il était déjà sur la sellette depuis l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Trône fin août. En mars dernier, le club de Casablanca a remporté la Supercoupe d'Afrique face à l'Espérance de Tunis sous la direction de Carteron. L'ex-international marocain Jamal Selami a été engagé jusqu'à la fin de la saison 2021 pour le remplacer. L'ancien joueur du Raja a été pendant 3 ans sélectionné de l'équipe nationale, lauréate du CHAN 2018.
L'athlète kényan Abraham Kiptum, suspendu pour dopage.
L'ancien recordman du monde du semi-marathon a écopé d'une suspension de 4 ans pour des irrégularités sur son passeport biologique. Abraham Kiptum, 30 ans, nie avoir utilisé toute substance prohibée ou méthode pouvant avoir provoqué les anormalités détectées. Il avait battu le record du monde du semi-marathon en octobre 2018 à Valence en 58 minutes 18 secondes. Cette performance, qui devrait être invalidée, a été battue le 15 septembre par son compatriote Geoffrey Kamoro, qui a couru le semi-marathon de Copenhague en 58 minutes et 1 seconde. Basketball pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Oklahoma City 111-85, Philadelphie et Cleveland 98-97, Miami et Détroit 117-108, Chicago et New York 120-102, Atlanta et Denver 125-121, LA Lakers et Phoenix 123-115, Utah et Brooklyn Nets 119-114, Portland et Sacramento 107-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Guinéens iront aux urnes le 16 février pour élire leurs législateurs. C'est ce qui ressort d'un décret pris par le président Alpha Condé. La date initiale du 28 décembre 2019 avait été jugée irréaliste par l'opposition. Celle-ci manifeste depuis plusieurs semaines contre un éventuel troisième mandat pour M. Alpha Condé. Joint à Conakry par Timothée de Nangmaï, M. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la société civile de Guinée.
Les acteurs politiques de l'opposition mettent en doute cette date qui a été avancée. Certains avancent les arguments juridiques, mais pour moi, en ce qui nous concerne au niveau de la société civile, l'article 62 du Code électoral stipule que le corps électoral pour les élections législatives est convoqué 70 jours avant le scrutin. En termes d'interprétation de ce délai, le président de la République est en droit, n'est-ce pas, de convoquer le corps électoral. Mais la deuxième chose, la CENI est l'organe compétent pour proposer un chronogramme des élections. Étant entendu que la première date qui a été proposée par la CENI a été rejetée par l'opposition, parce que cette date, selon elle, n'était pas tenable au vu des nombreuses tâches à accomplir avant le scrutin. Mais pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ces débats politiciens peuvent se tenir. Mais la nécessité d'organiser les élections législatives s'impose aujourd'hui. D'abord, un, pour parachever le processus électoral, et deux, pour permettre d'avoir une Assemblée nationale légitime où certains débats politiques peuvent se tenir.
L'opposition manifeste depuis plusieurs semaines contre ce qu'elle appelle le plan du président Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Est-ce que cela ne pourra pas compromettre les législatives de février 2020?
Parfaitement. Il y a toujours un lien de causalité qui peut aller à l'encontre du respect de cette date. Je suis tout à fait d'avis. Mais nous sommes dans une obligation de faire la part des choses. Une opposition se bat d'abord pour le respect des principes démocratiques. Et la tenue d'élections, dont les législatives, pour moi, va dans le sens du renforcement de ces principes démocratiques. Donc, pour moi, il faut faire la part des choses entre le débat sur l'adoption de la Constitution et sur l'organisation d'élections législatives. Pourquoi? Parce que si les députés sont choisis sur la base d'élections transparentes, le débat va se trouver dans un cadre formel. Donc, nous encourageons à ce que ces élections la soutiennent. Nous allons veiller à ce que les élections soient des élections transparentes et inclusives. Mais l'opposition doit comprendre qu'aller aux élections, c'est la raison d'être d'un parti politique, quitte à exiger les conditions optimales de sa sincérité ou de sa régularité.
Dansa Kourouma, président du Conseil national de la société civile de Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Cameroun, des milliers de conducteurs de mototaxis ont bloqué les rues de Yaoundé. Des responsables municipaux avaient interdit aux motards l'accès à certaines zones commerciales et résidentielles pour des raisons de sécurité. Les motards sont contre cette décision de la mairie. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par John Linden.
Défiant la forte présence de la police anti-émeute dans toute la ville, des groupes de conducteurs de mototaxi ont paralysé Yaoundé ce mardi. Ils ont bloqué les rues et ont poussé de nombreuses boutiques à fermer. Dieudonné Monono, président des Yaba, l'association des motards de taxi, légitime cette colère contre la décision de la mairie de leur interdire l'accès aux principaux centres commerciaux et quartiers où ils prennent la plupart de leurs clients. La moto est leur gagne-pain.
La plupart de ces motocyclistes sont des diplômés de l'université. Juste à cause du chômage, ils ont décidé de se faire un emploi pour vivre. Mais lorsque le gouvernement se lève et dit « je ne veux plus de motos en ville », je considère que c'est un très mauvais coup.
Selon lui, le gouvernement devrait remercier les conducteurs de moto-taxi car ils sont autonomes, ils payent des impôts, ils n'ont pas émigré vers l'Europe comme l'ont fait certains jeunes sans emploi. La décision de leur interdire de faire des affaires dans le centre-ville, devant les ambassades et les quartiers résidentiels, a été prise par le gouverneur de la région de Yaoundé, Nasseri Paul Beya. Il invoque des raisons de sécurité et des projets pour redonner à Yaoundé un nouveau visage pour les visiteurs internationaux.
Il est question pour eux de nous aider.
Le conseil municipal de la capitale a annoncé qu'il y avait au moins 30 000 motards à Yaoundé. La plupart d'entre eux transportent des clients de quartiers populaires qui n'ont pas de taxi à cause du mauvais état des routes. Jérémy Adjoya, un homme d'affaires âgé de 40 ans, affirme que le business est infiltré par des voyous.
Une partie de ces motards crée des situations très alarmantes à Yaoundé. Ils attaquent les gens la nuit et le jour. Ils arrachent les sacs des femmes. La plupart sont des voleurs armés.
D'ailleurs, quelques motards ont été arrêtés par la police et ont été reconnus coupables des crimes. Comme dans toutes les professions, reconnaît Dieudonné Monono, il y a des bons et des mauvais, et c'est au gouvernement de faire le tri pour protéger le grand public.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le deuxième forum de Paris sur la paix, réuni depuis mardi et pour deux jours, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine de dirigeants africains. Un extrait du discours d'ouverture du président français Emmanuel Macron.
L'Afrique est aujourd'hui en train de vivre avec nous collectivement un défi. Elle a longtemps été un objet du multilatéralisme. Elle est en train de devenir un des sujets du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'elle y prend sa part active. Et je veux saluer l'engagement des États africains ici présents et plus largement des pays d'Afrique qui prennent leur destin en main, construisent des solutions concrètes. La Tunisie a su le faire avec beaucoup de courage quand il s'est agi de rebâtir la démocratie il y a plusieurs années. Je salue ici la présence du Premier ministre. Mais tout le continent africain, et je pense en particulier au Sahel, a aujourd'hui ce défi et la force des pays africains de relever le défi politique aussi militaire et sécuritaire est essentiel. Et nous avons dans cette nouvel ordre international à bâtir aussi des nouvelles solutions dans le cadre des Nations Unies permettant d'accompagner mieux qu'on le fait aujourd'hui cette capacité sécuritaire de l'Afrique, mais aussi à l'aider à bâtir sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'économie, ce qui sont les quatre solutions qui permettent de bâtir la paix durable et d'éviter que ne réémergent les facteurs de déstabilisation.
Le président français Emmanuel Macron au Forum de Paris sur la paix. Son homologue congolais Félix Tshisekedi a quant à lui promis que l'Afrique et son pays seraient au rendez-vous des grands enjeux internationaux.
Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secouée par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée à travers la CEDEAO d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Shebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits. Au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo peut être considérée comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, mais en plus de cela, il faut répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au Forum de Paris sur la paix, qui s'est ouvert hier en présence de plusieurs dirigeants.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le Nigérian Yahaya Ousmane, connu sous son nom d'artiste Yahaya Mahako, qui signifie en Hausa « est devenu aveugle », est passé de la condition de mendiant au statut de chanteur populaire dans le nord du Nigeria. Après avoir perdu la vue à cause de la rougeole à l'âge de 3 ans, son village l'a envoyé mendier dans la rue où il a subi la discrimination jusqu'à ce qu'il rencontre un homme qui a complètement changé sa vie, Salwa Jafari.
Yahaya Mahako chante l'une de ses plus célèbres chansons à un public qui apprécie le miracle qu'il représente. Aujourd'hui, Mahako visite un quartier réservé aux mendiants handicapés. Aveugle depuis sa tendre enfance, le chanteur a surmonté tous les obstacles pour passer du statut de mendiant à celui de star.
Dans le nord du Nigeria, dans 100% des cas, ce sont les membres de la famille qui demandent à la personne handicapée de sortir dans la rue pour demander l'aumône. Si votre propre famille vous demande d'aller mendier, vous n'avez d'autre choix que d'obéir. C'est ainsi que je l'ai fait.
Yahaya a fait face à des années de discrimination avant qu'un pygmalion ne lui tende la main. Un riche admirateur décide de financer ses sessions d'enregistrement en 2016. Au cours des 4 dernières années, ses chansons et vidéoclips font les émules parmi les quelques 80 millions de Nigérians qui parlent le Hausa. Avec sa voix douce, il s'est frayé un chemin à travers des paroles qui traitent de maux de la société comme la corruption ou la pauvreté.
Mes chansons traitent des problèmes brûlants de la société et des défis quotidiens auxquels mon peuple est confronté. Ce sont des chansons qui attirent facilement l'attention des gens.
Yahaya a une place particulière dans le cœur des fans qui partagent sa condition. Hamissou Mohamed est un fan aveugle.
Chaque fois que j'écoute ces chansons, je ne peux pas expliquer la joie que je ressens dans mon cœur, car les messages sont juste pour moi. Dieu l'a aidé avec son talent, et c'est ce talent qui le nourrit et m'aide également.
Yasso, Dieu en a voulu ainsi, dit sa chanson. Yahaya incarne un conte de fées à la nigérienne. Une histoire qui brise les stéréotypes dans un pays où la pauvreté et le chômage sont élevés et où les opportunités pour les personnes aveugles sont très limitées.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, l'enquête initiée par les démocrates au Congrès en vue d'une possible mise en accusation de Donald Trump entre dans une phase critique avec le début des auditions publiques de témoins. Cette procédure visant un président n'avait pas été tenue depuis plus de 20 ans et elle risque de diviser davantage le pays à 1 an de la présidentielle. Les républicains continuent de se rallier autour du président que les démocrates accusent d'abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne. Nous allons évoquer les implications politiques de cette procédure avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.